D'abord, je m'appelle, au cas où ça vous est échappé sur le programme, Antoine Picon. Je suis directeur de recherche dans un des laboratoires de l'école qui s'appelle le Laboratoire Technique Territoire Société. Et je suis par ailleurs professeur à l'école d'architecture et d'urbanisme de l'université d'Harvard, où les élèves sont un petit peu plus à l'heure, encore que c'est pas spectaculaire. Quelques mots un peu sur de quoi s'agit-il. On va passer 6 séances ensemble. Vous avez le programme qui est repris plus ou moins de l'année dernière. On va passer 6 séances ensemble. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Et puis, donc, ensuite, on va démarrer la première séance. Alors, première chose, au cas où ça vous ait échappé, l'école des ponts est encore rangée dans les écoles d'ingénieurs, même si elle prépare des tas d'autres choses. Je vais y revenir. Il y a un demi-siècle, ça signifiait être admis dans une école d'ingénieurs que, grosso modo, on allait vous farcir la tête de sciences et de techniques, et que ça suffisait largement. Donc il y a encore, je dirais, 20-30 ans, c'était relativement simple, on faisait des études d'ingénieur, on devenait la plupart du temps ingénieur, même s'il y avait déjà des gens qui faisaient autre chose, etc. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes. Les carrières aujourd'hui sont plus aussi linéaires qu'autrefois. Vous pouvez démarrer dans l'ingénierie ou ne pas démarrer dans l'ingénierie, mais je dirais probablement tous les 10 ans, il est possible que vous preniez des virages dans vos carrières, etc. Et en tout cas, les sciences et les techniques, c'est pas la seule chose que vous allez faire. En outre, l'école des ponts, comme vous le savez tous, et c'est en général un des éléments d'attraction de l'école, c'est que ça prépare des tas de choses, depuis les banques jusqu'au génie civil, en passant par l'urbanisme. Et donc, du coup, je dirais, à l'intersection de ces deux choses, la plus grande flexibilité des carrières et l'évolution de l'école, il est devenu nécessaire d'ouvrir des formations comme celles que vous allez recevoir ici à des tas de connaissances qui ne sont pas les connaissances scientifiques et techniques stricto sensu, qui vont même au-delà de l'économie et de la gestion, et qui, notamment, englobent les humanités et les sciences sociales. Et du coup, ce cours, c'est un peu une introduction à d'autres types d'enseignements que les sciences, même si je vais y revenir, on va parler pas mal de sciences et de techniques, plutôt de techniques d'ailleurs, dans les quelques séances que je vais avoir avec vous. Alors la raison pour laquelle j'ai fait ce choix de vous parler, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais de sciences et de techniques, c'est qu'en même temps, ce qui est compliqué, c'est que beaucoup d'entre vous ont fait la prépa. Vous êtes tous sortis de prépa en première année ou pas? Je sais jamais. Oui? Bon. Beaucoup d'entre vous ont fait la prépa. L'école des ponts, malgré tout, c'est ni Sciences Po ni HEC. Ça va quand même marquer un peu qui vous êtes. Et du coup, on s'attend quand même à ce que vous ayez quelque chose à dire sur les sciences et les techniques, même si ça va pas être forcément, je dirais, votre gagne-pain quotidien. Du coup, cette série de séances, elle est destinée à amorcer un peu la réflexion sur société, l'ingénieur dans la société, plus généralement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la société, et puis en même temps à vous faire réfléchir aux sciences et aux techniques, donc un espèce de but double. Alors c'est super parce que c'est 6 séances qui sont essentiellement des cours magistraux. En général, j'ai la voix un peu fléblarde, donc si j'arrive à survivre jusqu'à la fin, on essaiera d'avoir un moment de questions et réponses, sinon ça sera plus compliqué. Je sais que vous êtes très nombreux, mais enfin, bon, c'est en général l'occasion, si vous avez des questions ou des remarques, de les faire. Alors, le programme du cours, je viendrai enfin aux modalités d'examen, mais on va commencer par la question générale de qu'est-ce qu'on peut dire des techniques, qui ne soient pas uniquement dans les techniques, mais qui soient sur le rapport technique-société. Et donc, je vous parlerai de, finalement, la façon d'aborder des questions comme qu'est-ce que c'est qu'un système technique, une révolution technique, comment penser les questions d'innovation, etc., à partir d'un certain nombre d'exemples, et ainsi de suite. Deuxième séance, c'est la moins populaire, j'en suis conscient, mais je considère qu'elle est utile, qui est un peu de faire une histoire de l'ingénieur, parce que malgré tout, ça reste marqué, cet endroit, par le fait que c'est considéré comme une école d'ingénieurs et de sa transformation, disons, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, en terminant sur les défis, aujourd'hui, de la figure de l'ingénieur. Vous ne faites pas d'illusions, vous allez rentrer dans un monde dans lequel, ce n'est pas parce que vous avez fait l'école des ponts qu'on s'attend à ce que votre parole soit forcément parole d'évangile. Au contraire, vous risquez d'être confronté à des gens qui vous challengent, qui vous disent pourquoi vous dites ça, de quel droit, etc. Donc, c'est pas mauvais de réfléchir un peu l'ingénieur hier, aujourd'hui et peut-être demain. Ensuite, la troisième séance, on élargira la question plus générale de l'homme et la technique, avec cette espèce de paradoxe, c'est que la technique, c'est souvent, ça apparaît comme le truc qui paraît le moins intéressant, le moins humain. Enfin, dans les salons, c'est assez difficile en général de briller en parlant de technique. Ou alors, il faut être vraiment sur une technique hot topic. Et en même temps, on vous entendait souvent dire que la technique, c'est le propre de l'homme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de bizarre relation entre l'humain et la technique. La quatrième séance sera sur la question du travail. Là aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de la fin du travail. Enfin, vous avez des gens comme Rifkin et autres qui vous annoncent une nouvelle société industrielle dans laquelle il n'y aurait plus que des robots et plus d'humains qui travaillent. Ça se discute. Et en tout cas, ce n'est pas inintéressant de se demander comment a-t-on pensé le travail dans les siècles qui précèdent, et notamment avec un très fort focus sur la question du taylorisme. Qu'est-ce que le taylorisme? Pourquoi ça a eu autant de succès? Parce qu'il faut quand même dire une chose, vous avez des tas de discours élégants sur la fin du travail, etc. N'empêche, en Chine, le taylorisme, ça s'applique toujours dans beaucoup d'usines. Donc c'est pas inutile de savoir exactement ce qu'on veut dire par là. Et puis deux dernières séances, assez proche de mes thèmes de travail actuels. Un qui sera sur ville et technique. Et on parlera notamment de qu'est-ce que c'est que ces histoires de ville intelligente, Smart City, dont on entend parler aujourd'hui. Il se trouve que j'ai écrit deux livres ces dernières années sur ces questions-là. Donc on parlera un petit peu de la façon de penser le rapport entre ville et technique. Et puis la dernière séance sera sur technique, imaginaire et utopie, avec dans l'idée qu'il n'y a pas d'innovation sans imaginaire, donc ça sera un peu une espèce de réflexion là-dessus. Alors c'est assez historique. La raison, c'est que après des études d'ingénieur et d'architecte, je suis devenu plutôt historien. Donc même si dans mon travail historique, je vais très souvent jusqu'au présent, et je pense que par les temps qui courent, un peu de profondeur historique, ça fait pas de mal. Vous avez hérité, je dirais, il y a une espèce de présentisme lié au numérique qui fait que des fois on perd un peu la focale historique et c'est pas inutile pour comprendre certains problèmes. C'est pas la première fois, par exemple, qu'on nous fait des promesses au nom de la technologie d'avenir radieux, et c'est pas la première fois que la désillusion suit parfois de près les promesses. Donc il n'est pas totalement inutile de réfléchir à ça. Alors, c'est pas un cours au sens traditionnel. Il y a que 6 séances. Elles sont sur des sujets, à vrai dire, si j'ai fait pendant des années un cours sur technique et société à l'École des Ponts. Mais c'était un cours en 13 séances, enfin le module traditionnel. C'est plutôt plus léger. C'est comme une espèce d'appetizer pour ensuite aller regarder du côté des sciences sociales. Je sais qu'en deuxième semestre, vous avez une offre déjà de sciences sociales, et en deuxième année et troisième année, vous aurez une offre beaucoup plus conséquente. Donc prenez-le, encore une fois, comme un biscuit apéritif, plus ou moins facile à croquer. Enfin, j'aimerais autant que ça vous intéresse, parce que, bon, la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce cours, parce qu'il y avait toujours un côté mission impossible d'aller faire du prosélytisme pour les sciences sociales, premier trimestre de l'École des Ponts. Ça, où être jeté au lion, c'était à peu près pareil. Donc j'ai accepté de le faire parce que j'y crois, puis en général, je vous aime bien. Donc je vous trouve plutôt sympa, etc. Alors, je vous aime tellement que, histoire quand même de stimuler un petit peu votre appétit pour ce cours, il y a un examen final. Mais devinez quoi, s'il n'y a pas d'examen final, qu'est-ce qui va se passer? Je vais parler devant 3 personnes. Et ensuite, je vais me faire engueuler par la direction de l'enseignement. Ça commence, ça se relâche, etc. Donc, il y a un examen, youpi, youpladi, qui, grosso modo, porte la moitié de l'examen. Alors, c'est con comme tous les examens. Grosso modo, la moitié de l'examen, ça va porter sur des questions de cours. Donc, vous aurez les slides. J'aime pas les slides où il y a du baratin, mais pour ce cours, j'ai mis plein de baratin sur les slides, histoire quand même que, si vous voulez, si je pose une question qui était la slide 17... du cours 3. Si le gars qui a raisonnablement suivi et re-regardé les PowerPoints devrait savoir de quoi il s'agit. Et puis ensuite, il y a en général une question un peu d'intérêt plus général sur technique et société. Bon, j'irai pas jusqu'aux sujets les plus hauts du genre la PMA pour tous, qu'en pensez-vous, histoire de rester paisible, mais il est évident qu'on va toucher à des questions un peu sur technique et société qui ont des rapports avec ces questions-là. Donc voilà, c'est clair. Bien, donc règle du jeu quand même, venir au cours avec sinon de l'enthousiasme, du moins un certain entrain. Laisser l'entrain à la porte de la salle pendant une heure et demie, et en général, donc au plus tard à 3 heures, possiblement avant, je vous lâche, et j'espère que ça vous intéressera. Alors on va commencer par une question quand même un peu bête, c'est comme je l'ai dit, on va parler des techniques, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire des techniques ? Au-delà d'un discours purement technique. Je dirais, il y a finalement deux choses dans les techniques. Le premier, c'est que analyser les techniques, si vous voulez dire des techniques quelque chose, dire uniquement, faire une description détaillée d'un carburateur, ça ne fait pas avancer beaucoup le schmilblick du rapport technique-société, si vous voulez. D'un autre côté, et c'est ça qui est compliqué, si vous prenez une distance stratosphérique de la technologie pour parler de la technologie en général, les philosophes sont en général assez bons pour ce genre d'exercice, sans jamais savoir toujours de quoi on parle, ça ne résout pas non plus la question. Donc le vrai défi, c'est comment on peut articuler une description relativement fine, enfin sans rentrer dans des détails totaux, mais des techniques, de ce qu'elles sont à un moment donné dans l'histoire, et articuler ça avec ce que sont leurs effets sociaux, politiques et culturels. C'est de ça dont il va s'agir beaucoup dans ces séances. Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, d'aborder cette question. Une des façons possibles, c'est d'observer qu'en fait, dans une société donnée, une des définitions des techniques, c'est qu'elles se présentent rarement à l'état isolé. Les techniques, elles ont des liens les unes avec les autres. Et ça va me conduire à introduire cette notion de système technique, et on le fera à différentes échelles. Je vais vous parler au début de méga-système technique, le système technique d'une société tout entière, et ensuite on abordera des systèmes techniques. Je vais vous parler des containers, bizarrement, comme système technique, donc un système technique plus limité, et donc ça sera un petit peu ça l'idée. Alors, donc, cette histoire de... Et ça va aussi permettre de préciser des notions dont on entend souvent parler, mais on ne sait pas toujours ce qu'on entend par ça, du genre, qu'est-ce que c'est que une révolution technique, qu'est-ce que c'est que l'innovation versus l'invention, toutes ces questions sur lesquelles il n'est pas inutile d'avoir 2-3 réflexions. OK ? Bien. Alors, commençons par cette idée d'entrer dans la boîte noire des techniques. Ce qui est compliqué, c'est qu'encore une fois, que la technique soit sociale et politique, ça, c'est pas extrêmement difficile de s'en rendre compte. Prenez, par exemple, la question nucléaire. On débat encore beaucoup aujourd'hui. C'est d'ailleurs une question plutôt politiquement hot. Est-ce qu'il vaut mieux développer la filière nucléaire pour essayer d'obtenir une économie décarbonée, ou est-ce que c'est bad, parce qu'on sait pas quoi faire des déchets? Et puis évidemment, tout de suite, on pense à Fukushima, on pense, etc. Donc ces questions, on est au cœur du politique. Cela dit, vous pouvez parler de ça. En général, les politiques sont assez bons pour parler de ça en n'ayant absolument aucune idée de ce que c'est que les technologies du nucléaire. Je me souviens, j'avais été une fois pour rigoler à un grand oral de l'ENA, et je me souviens, on avait demandé à un gars, c'était un peu vicieux, un gars qui s'était préparé avec Sciences Po et tout, « Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la structure de l'atome ?» Et ça avait donné un truc assez étrange du genre, c'est des nucléotides qui tournent autour d'une double hélice d'ADN, enfin, espèce de machin assez spectaculaire. Et c'est les mêmes mecs qui, après ça, vont vous parler de l'option nucléaire pour la France, etc. Donc, comment fait-on pour essayer de parler des techniques? Sachant que les techniques, ce qui est compliqué, c'est que on a souvent tendance à penser que c'est quand même un peu extérieur à ce qui fait l'humain quotidien. C'est un truc d'ingénieur, on se dit souvent d'ailleurs, et les ingénieurs, on sait bien, c'est des geeks, à la limite de l'humain. Donc, c'est pas pour monsieur tout le monde. Mais Ce qui est quand même paradoxal en même temps, c'est que si vous lisez les anthropologues, les philosophes, etc., on va vous dire, l'une des définitions de l'humain, c'est que les hommes ont et les femmes ont des outils. Et c'est même l'hominisation, une de ses traces, c'est effectivement le travail, la constitution d'outils, par exemple les silex, etc. Mais, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que là, tout le monde est enthousiasmé par les silex. Alors, quand vous arrivez à ça, ça, vous voyez, c'est un document qui ne va pas vous plonger dans un abîme d'émotions. C'est la table de réglage de machines à vapeur au XIXe siècle. La machine à vapeur, c'est super important. Ça permet de naviguer à la vapeur. Ça va permettre de diminuer les trajets transatlantiques et tout. Mais enfin, bon, là, c'est vraiment très difficile de briller dans un salon en projetant cette image. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un espèce de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire des techniques ? Alors, comment rentrer, finalement, dans cette boîte noire des techniques ? Comment en dire quelque chose qui ne soit pas juste une description, et une description peut-être trop détaillée pour qu'on puisse s'y intéresser si on n'est pas directement dans le domaine, ou juste, à une distance cosmique, raconter des trucs très généraux sur les techniques ? Alors, comment, finalement, donner des éléments de compréhension des techniques qui soient ni trop loin, ni trop près ? Qui permettent quand même d'articuler, encore une fois, technique et société. Alors, la première chose, c'est peut-être d'observer que les techniques, encore une fois, elles ne sont pas seules, et que les techniques, elles commencent à faire société, ne serait-ce que parce que, et ça, depuis au moins le XVIIIe siècle, ça frappait les gens, c'est que dans une société, il y a des cordonniers, il y a des forgerons, il y a etc. Et puis, les cordonniers, ils peuvent avoir besoin de clous que vont fabriquer les forgerons. Les techniques, elles ont des liens les unes avec les autres, et qu'il y a des espèces de cohérence entre les techniques. Et c'est ça, la notion de système technique, que je vais essayer de décrire un petit peu plus précisément dans la première, dans cette séance. Avec l'idée, finalement, qu'il y a une espèce de cohérence entre les techniques. Et ça, c'est de ça dont il faut peut-être maintenant parler, cette idée de cohérence entre les techniques, parce que c'est fondamental. C'est peut-être ça qui définit les techniques profondément. Et c'est d'ailleurs, on a découvert, parce que pendant longtemps, on a vécu sur l'idée agréable que les animaux, ils étaient vraiment très très bêtes, ils n'avaient pas d'outils. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, les grands singes, non seulement ils ont des outils, mais ils ont des traditions techniques. C'est-à-dire, vous avez des populations de singes qui, par exemple, cassent les noix d'une certaine façon, et vous avez des populations de singes qui cassent les noix d'une autre façon, parce qu'ils se sont créés des traditions techniques, et en fait, il y a de l'apprentissage, etc. Alors, où est la différence ? Alors, on sait aussi maintenant que ça ne se limite pas aux grands singes, les oiseaux aussi, ont certaines espèces d'oiseaux ont des outils, etc. Donc, l'hominisation, peut-être qu'il faut déplacer le problème et dire finalement ce qui caractérise l'homme, c'est qu'on a tout de même plus d'outils que les populations de chimpanzés. Et qui sont, du coup, les systèmes que ça fabrique, c'est un petit peu plus complexe. Mais évidemment, ça pose la question, c'est quoi la cohérence des techniques ? C'est quoi ce qui assure leur cohésion. Alors, première chose, c'est encore une fois, c'est l'idée que les techniques humaines, elles sont plus longues, c'est des chaînes plus longues, plus complexes, avec des ensembles d'outils, pas un outil, avec donc des séries, des chaînes d'opérations, etc. Et avec cette idée donc que les choses ne sont pas isolées, et ça me semble très important. Un objet parfaitement isolé, c'est finalement un objet magique, je vais y revenir. Alors, ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur lesquelles on dit souvent des bêtises. Par exemple, la machine de Watt, on a souvent tendance à s'imaginer que c'est juste, bon, c'est une machine à vapeur, ça utilise ce qu'on appelle la force expansive de la vapeur. Très grosso modo, la vapeur pousse le piston dans un sens puis dans un autre. Ça fabrique du mouvement. Ensuite, on transmet le mouvement. C'est la machine qui va générer la première révolution industrielle. Je vais y revenir. Alors, grande question que se sont posées parfois les gens, pourquoi les Romains, ils n'ont pas eu la machine à vapeur ? Parce qu'en fait, les Romains et les Grecs, ils connaissaient la force expansive de la vapeur. Et les Alexandrins, par exemple, à Alexandrie, dans les premiers siècles de notre ère, on se servait de la vapeur pour actionner des machines, plutôt des trucs pour faire bouger les statues des dieux dans les temples, enfin des machins un peu parc d'attractions, version religieuse. Mais pourquoi ils n'ont pas inventé la machine à vapeur ? Et ça, c'est typique de la question dans laquelle... Alors, réponse en général qu'adorent souvent les historiens qui n'ont pas de connaissance des techniques. Ah ben, il y a une raison fondamentale, c'est l'esclavage. Comme ils avaient des esclaves, ils n'avaient pas besoin de mécaniser parce que la main-d'œuvre, ça coûtait moins cher, etc. C'est pas complètement faux. Sauf que c'est franchement pas vrai en même temps. Parce que le vrai problème, ce qu'on comprend pas, c'est que pour avoir ça, ça suffit pas d'avoir l'idée de faire pousser à la vapeur un piston. Il faut être capable, par exemple, d'être capable de vous faire un piston, et puis d'être capable de faire un cylindre bien ajusté avec le piston. Parce que si vous perdez de la vapeur de tous les côtés, ça va pas marcher. Pour vous donner une idée, à la fin du XVIIIe siècle, à Manchester, là où Watt fabrique sa machine, les tolérances pour les grandes pièces métalliques, qui sont dures à fabriquer à l'époque, etc., elles sont de l'ordre du centimètre, voire même de l'inch, c'est-à-dire 2 centimètres, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, et à l'époque, l'Angleterre est beaucoup plus avancée sidérurgiquement que les Romains. Ça veut dire qu'en fait, la machine à vapeur, ça ne dépend pas que de la vapeur, du charbon, etc., ça dépend de la sidérurgie de l'époque et de la façon dont on est capable de faire précisément des pièces métalliques. Ça dépend aussi de tas d'autres technologies. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, une machine comme la machine à vapeur, elle n'est pas isolée, elle dépend de tas d'autres choses. C'est comme votre ordinateur. Votre ordinateur, il y a besoin du plastique, il y a besoin des tas d'autres choses que des technologies simplement, genre que des circuits imprimés, etc. Donc les technologies, elles sont solidaires les unes des autres et ça permet de mieux comprendre pourquoi les Romains n'ont pas inventé la machine à vapeur. Il n'y a pas que l'esclavage. Ça a joué un rôle, mais en fait, on se rend compte que ça n'a pas toujours joué un rôle à ce point, parce que, par exemple, dans les États esclavagistes du Sud, on a mécanisé beaucoup de choses à l'époque encore où il y avait de l'esclavage dans les plantations de coton. Donc l'argument n'est pas aussi juste que ce qu'on peut croire. Du coup, c'est finalement ce qui distingue l'objet technique de l'objet magique. Supposons qu'on vous donne tout d'un coup un ordinateur de l'an 2500, si on est toujours là sur cette planète. Eh ben, vous n'aurez probablement pas l'outil pour le recharger. Il va peut-être faire des choses spectaculaires, mais vous ne pouvez pas les répliquer. Il n'accepte pas les clés USB, etc., etc. Et vous vous rendez compte, c'est un objet qui peut certes faire l'objet d'une démonstration merveilleuse, etc., mais qui ne peut pas se connecter avec les autres, ainsi de suite. Et finalement, l'objet magique, c'est un peu l'objet qui souvent ne se connecte pas. C'est la grande différence avec l'objet technique. Alors, si vous n'êtes jamais demandé quelle était la signification profonde de Harry Potter, eh bien, Harry Potter, c'est la lente transformation d'un objet magique en un objet technique. C'est au début de la baguette magique, on la contrôle pas, c'est le bordel, etc. Et petit à petit, en prenant des cours, en se connectant à du savoir, etc., on apprend à maîtriser, comme une technologie, la magie. En fait, à Poudlard, ce qu'on apprend, grosso modo, c'est des techniques magiques, quoi. Voilà, alors on est plus ou moins doué pour faire surgir les dragons, etc., mais le champ est balisé. Par opposition, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce vieux film assez rigolo qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Il y en a qui l'ont vu ? Bon, c'est un film assez rigolo qui imagine qui met en scène une tribu de Bushman en Afrique du Sud et qui vit un peu avec des technologies essentiellement bois, pierre, etc., silex. Et puis tout d'un coup, un avion largue une bouteille de coca vide. Et la bouteille de coca vide, elle est absolument magique, elle est transparente, ils en ont jamais vu, etc. Et en fait, c'est pas un objet technique, c'est un objet magique parce qu'il se relie à rien d'autre dans leur univers quotidien. Résultat, d'ailleurs, ça se transforme en une espèce de cauchemar pour la tribu. Mais allez voir regarder le film. C'est un film qui est assez rigolo. Alors, finalement, comment on rend compte de ces cohérences, etc. C'est pour ça qu'on a avancé, les historiens ont progressivement mis en place l'idée de système technique. Donc je vais essayer de vous parler de comment on a pu parler de système technique, et je vais le faire à deux échelles. Je vais encore une fois prendre ce que je vais appeler des macro-systèmes, c'est-à-dire les techniques dans une société dans leur ensemble, et ensuite regarder à une plus fine échelle. L'une des idées aussi, c'est de vous accoutumer à l'idée suivante. Il n'y a en général pas de vérité absolue en sciences sociales. Tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les choses. et on ne répond pas aux mêmes questions, aux mêmes échelles. Donc c'est aussi une ambition méthodologique de vous convaincre qu'en fait les problèmes se déplacent en fonction de la focale qu'on adopte. Gros, et donc c'est de ça dont il va s'agir aussi. Alors première chose, les macrosystèmes, je vais prendre deux figures qui sont un Lewis Mumford et puis ensuite Bertrand Gilles, des gens assez différents, un gars qui était un intellectuel au sens presque français même si en fait c'était un Américain, et ensuite Bertrand Gilles qui était un historien plus classique français. Alors Lewis Mumford, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Lewis Mumford parmi vous? Il y en a quand même. Ça a été un des intellectuels les plus influents de sa génération. Il a vécu assez longtemps. Il était né en 1895 et il est mort en 1990. Il a quand même été plusieurs fois à la couverture de Time Magazine. C'est quelqu'un qui a eu une carrière très atypique aux États-Unis, c'est-à-dire il a décidé de ne pas devenir prof d'université. En général, quand on veut être intello aux États-Unis, on devient prof d'université. Mais il a vécu de sa plume toute sa vie. Et il a publié un certain nombre de livres extrêmement influents. Par exemple, Techniques and Civilization, qui est un livre toujours publié aujourd'hui, qui est une espèce d'essai sur la marche en avant des techniques. Qui a été republié il y a 2 ans avec une préface de votre serviteur. Il y a toujours des lecteurs de Mumford jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle « The Myth of the Machine »,« Techniques and Civilization ». Je vais revenir pourquoi « technique », ce n'est pas « technology », parce que ce n'est pas un terme courant en anglais, « techniques ». Et ça date de 1934. Et « The Myth of the Machine », c'est 1966. Alors, c'est quelqu'un qui est très hanté par une espèce de dimension anthropologique de la technique. C'est les techniques, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose sur l'humain. D'où d'ailleurs le fait qu'il ne choisit pas technology. Technology, le logis, ça, logos, ça renvoie à l'idée d'une technique un peu savante. Techniques, qui est d'habitude utilisé en anglais, bon, English 101, pour ceux qui ne savent pas, technology, c'est la technique au sens le plus courant. Lorsque vous dites technique en anglais, justement, ça a un côté savoir-faire, tour de main, etc. Il va utiliser ça très volontairement pour dire finalement de l'art du sabotier au lancement des fusées, c'est une même destinée technologique qui se joue, qui est la capacité finalement des hommes à faire et des femmes. Désolé, comme on n'est pas aux États-Unis, j'utilise encore le masculin, mais je pense évidemment aux deux genres, à mobiliser les techniques dans leur devenir. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va théoriser la notion de système technique en utilisant le mot, mais en fait, il va l'introduire, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Alors, plutôt que de système, il va parler en fait de la méga-machine, c'est-à-dire que les technologies et l'humanité, ça forme des espèces de méga-machines, the machine, a shorthand reference to the entire technological complex. Et en fait, à ce propos d'ailleurs, ça va être un des premiers, par exemple, à parler d'appareils militaro-industriels après la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Alors, il va essayer à partir de ça de caractériser des âges de la technologie et du rapport technique-société. Et il va notamment introduire fameusement dans Techniques and Civilization une distinction de 3 âges de la technique, ce qu'il appelle en Occident en tout cas l'âge éotechnique. Éo, ça veut dire primitif, l'âge paléotechnique de 1700 à 1900 et l'ère néotechnique 1900 au présent. Bon, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Phase éotechnique, pour lui, ça renvoie à 2 choses. C'est les débuts de 2 choses. Là, une part, et je vais y revenir, c'est un des thèmes les plus intéressants dans sa réflexion, l'idée de maîtrise du temps. C'est-à-dire, c'est le moment où on va commencer à se dire la technologie moderne, elle est au moins autant à propos du temps que de l'espace, etc. Et deuxième chose, l'idée qu'on peut rationaliser les savoir-faire, etc. Et puis, je vais revenir avec l'idée de techniques traditionnelles, l'eau, le bois, etc. La phase paléotechnique, pour lui, c'est l'ère de la machine à vapeur, c'est l'ère industrielle du 19e siècle. Et puis, l'ère néotechnique qui va annoncer tout au long de sa vie, au début avec beaucoup d'optimisme et après avec de moins en moins d'optimisme, Il va y associer l'électricité, notamment. Et assez vite, Mumford est un des premiers à parler de l'information et à dire finalement l'ère de l'information, c'est une nouvelle ère et l'ère néotechnique. Et une autre chose aussi qui est très prémonitoire chez Mumford, aussi la maîtrise des techniques biologiques, les techniques du vivant. Alors c'est bon, ça c'était juste pour illustrer, c'est vrai qu'il naît encore une fois en 1890, c'est ça, donc grosso modo il est dans la génération qui voit naître l'électricité. Et toute cette génération-là va être fascinée par l'idée qu'un monde nouveau est en train de naître, qui ne sera pas la même chose que le monde des machines à vapeur, et ça va beaucoup, un peu comme vous qui êtes né finalement en même temps que le numérique. Donc il y a cette espèce de conscience qu'un monde nouveau est en train d'émerger. Alors je reviens sur quelques-unes de ces idées intéressantes. Cette idée du temps. Il va expliquer qu'en fait, avant les usines, etc., ce qui va rendre possible l'aventure technologique moderne de l'humanité, c'est la définition d'un temps commun et partagé. Et il explique qu'avant les usines, il y a les couvents au Moyen-Âge qui sont parmi les premières communautés humaines qui se règlent sur les horloges. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à ça. En fait, si vous réfléchissez, prenez même l'enseignement tel que je le connais aujourd'hui, à part certaines exceptions discutables, la plupart d'entre vous ont noté que ce cours commençait à 1 heure. Essayez d'imaginer nos sociétés sans respect d'une norme de temps collective. Et vous vous rendez compte qu'il est à peu près impossible de faire quoi que ce soit, et vous vous rendez compte qu'en fait, bon, ces idées de système, machine, technique, etc., c'est des idées qui sont pas inintéressantes. Alors Mumford est lui-même un personnage assez fascinant, il va écrire sur la ville aussi, et il va devenir de plus en plus critique. Au début de sa carrière, Techniques and Civilization est un livre très optimiste. Il pense que l'ère néotechnique, la nouvelle ère technique qui s'annonce avec l'électricité va permettre de surmonter les violences de l'ère industrielle. Donc il est très très optimiste. Et puis il va devenir de plus en plus pessimiste en vieillissant, ça arrive, et en voyant finalement les progrès de nouvelles formes d'asservissement, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, cette fameuse appareil militaro-industriel. Il va être aussi extrêmement actif dans les débats urbains américains. En fait, c'est un des grands protagonistes des débats urbains américains des années 50-60. Donc, personnage intéressant, personnage qui va finalement mettre en scène l'idée qu'il y a des âges de la technique, qui sont des âges de l'organisation de la technique. Pour l'ère éotechnique, il y a les horloges, mais il y a aussi, je vais y revenir, comme chez Bertrand Gilles, l'idée que l'eau, l'hydraulique, etc., c'est un truc très important. Pour l'ère paléotechnique, la révolution industrielle, la machine à vapeur, et l'électricité, la biologie, l'information pour la nouvelle ère. Alors ces notions, elles vont se préciser avec ce qui est peut-être le plus grand théoricien, disons, de l'histoire des techniques français, qui est un gars qui s'appelle Bertrand Gilles, dont vous avez sans doute jamais entendu parler. C'est pas un crime, il était né en 1920 et il est mort en 1980. C'est un personnage assez curieux quand même, parce qu'il n'était pas du tout issu du monde des techniques au départ. C'est un historien d'économie qui a écrit sur les... et qui progressivement, à travers l'économie, a découvert l'importance des techniques. Et il y a deux livres qui ont marqué leur temps. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Les ingénieurs de la Renaissance », qui est une espèce de démystification de Léonard de Vinci. Où il explique qu'en fait, bon, ce que tout le monde sait aujourd'hui, mais que Léonard n'avait rien de remarquable d'un point de vue technologique. La plupart des « inventions » entre guillemets de Léonard se trouvent chez ses devanciers, y compris chez son maître, qui a été Francesco Di Giorgio. Et donc, en fait, Gilles explique un peu le mouvement d'innovation mécanique de la Renaissance de façon assez intéressante, au-delà de Léonard de Vinci. Puis il a fait un truc plus étonnant, il a écrit, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'encyclopédie de la Pléiade, à l'ère du numérique, on s'y réfère moins, mais il a écrit à presque lui tout seul, tout le volume d'histoire des techniques de l'encyclopédie de la Pléiade. Alors il explique avec une candeur assez désarmante dans la préface, « J'aurais bien aimé avoir plus de collaborateurs », mais il n'y avait pratiquement personne en France qui travaillait sur les techniques. Ce qui était vrai à l'époque, maintenant il y a un peu plus de monde. Et dans la préface de ce bouquin, il va introduire une notion de système technique assez standard, qui est restée valide jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est quoi un système technique ? Grosso modo, Gilles explique que très grosso modo, bon, les techniques, si vous regardez, vous avez ce qu'on appelle des structures élémentaires, c'est-à-dire des trucs qui correspondent à une opération que vous faites, par exemple visser, vous, etc., où il y a la vis, le tournevis et votre main, etc. Et puis, en se combinant, ces trucs-là donnent naissance à ce qu'il appelle des ensembles. Et c'est-à-dire, c'est plusieurs opérations cohérentes, comme par exemple visser une culasse. C'est un truc qui a sa cohérence et qui met en jeu plusieurs opérations de vissage, etc., etc. Donc, et ensuite, tout ça, ça se combine et ça donne naissance à ce qu'il appelle des filières. Alors, les filières, elles peuvent être artisanales, comme par exemple, il a été très marqué aussi par l'étude des arts et traditions populaires, il était très proche du fondateur du musée des arts et traditions populaires, donc il décompose toutes les opérations pour le sabot. Pour le sabot, bah, faut aller chercher du bois, faut le tailler, il y a plusieurs opérations, etc., etc. Mais enfin, vous pouvez faire la même chose, c'est la première voiture produite industriellement, la Ford T, dans les années 20. Vous pouvez faire la même chose sur ces choses-là. Et alors, Jules, finalement, va essayer d'expliquer que entre les ensembles, les filières, etc., les opérations, les ensembles, les filières, il y a des connexions, des solidarités. Et par exemple, la première révolution industrielle, vous avez trois éléments centraux qui sont en fait la base du système industriel. Alors la première révolution industrielle, du point de vue de ses applications, vous avez deux trucs vraiment fondamentaux qui sont le textile. En fait, la révolution industrielle telle que la, vous savez, en 19e siècle, c'est essentiellement une révolution du textile. Et c'est quoi? C'est on va mécaniser la filature textile. Si vous lisez le Capital de Marx, il parle que de ça. C'est la filature de coton à Manchester et ainsi de suite. C'est pas d'ailleurs, vous imaginez, c'est la première industrie de masse. Qui d'ailleurs a un espèce de truc très étrange. J'ai un collègue d'Harvard qui a écrit un bouquin assez passionnant qui s'appelle Empire of Cotton, qui explique en fait toute l'histoire du textile sur les trois derniers siècles. C'est le coton, c'est un truc qui vient des tropiques, qui est filé dans les tropiques, en Afrique, en Inde, etc. En fait, la révolution industrielle, ça consiste à piquer la filature du coton et l'emmener dans le nord, et ça va être la fortune de l'Angleterre. Et ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe, vous savez, on entend parler de la crise du textile partout, etc., c'est en fait les pays tropicaux qui ont récupéré à nouveau l'industrie du coton. Donc, mais en tout cas, 19e siècle, le coton. L'autre truc fondamental, c'est les transports, avec notamment les chemins de fer, etc. Mais le cœur de ces techniques, c'est quoi? C'est un espèce de trépied qui est la machine à vapeur, le fer, comme matériau de construction, et le charbon. C'est le moment, d'ailleurs, là, on dit aujourd'hui, on se rend compte, c'est le moment où on rentre dans l'économie carbonée, et c'est la première révolution industrielle. Avec des solidarités, par exemple, pour faire une machine à vapeur, il faut du fer. Pour faire, dans une machine à vapeur, on brûle du charbon. La machine à vapeur, sans machine à vapeur, on ne peut pas extraire le charbon en grande quantité, parce que pour pomper l'eau dans les mines, on va se servir de machines à vapeur. Donc vous voyez un espèce de côté systémique comme ça. Ça va? Bien. Avec d'ailleurs, le chemin de fer, c'est quoi? C'est on met une machine à vapeur sur des rails et on retrouve la vapeur, le fer, etc. Alors Bertrand Gilles, finalement, va dire un système technique, c'est quoi? Eh ben, c'est l'ensemble des cohérences aux différents niveaux de toutes les structures, de tous les ensembles et de toutes les filières. Et c'est ça, un système technique pour Bertrand Gilles. Encore une fois, il y a une espèce de noyau pour Gilles à différentes époques. Par exemple, avant la révolution industrielle, le noyau des technologies est assez différent. C'est pas le fer qui reste un matériau assez marginal jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est cher à produire. Donc on l'utilise en matière militaire, mais c'est pas très utilisé, par exemple, comme matériau de construction. La plupart des machines sont en bois, etc. Et en fait, les vraies structures de base de la production, c'est l'eau et le bois. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est la seule source d'énergie permanente, avec les roues hydrauliques, et c'est le principal mode de transport. Il faut vous imaginer qu'avant le XVIIIe siècle, tout l'essentiel du transport sur longue distance, c'est un transport par voie d'eau. Et puis le bois, parce que c'est le principal matériau de construction et c'est aussi le principal combustible. Alors ça a des conséquences, toutes ces histoires-là. On peut dire que finalement, c'est quoi l'industrialisation? C'est le passage du couple au bois à la triade fer, charbon, vapeur. Alors ça nous permet d'ailleurs de comprendre finalement fer, charbon, vapeur, voilà, de ça à ça. Et ça a toute une série de conséquences. Pour vous donner un exemple, à l'époque de l'énergie hydraulique, elle ne se transporte pas. Ce qui veut dire qu'on ne peut produire que localement là où vous avez des cours d'eau. Ça permet de comprendre pourquoi, par exemple, les vallées de montagne sont souvent des vallées très industrialisées jusqu'au XVIIIe siècle, parce qu'il y a des chutes d'eau. Du coup, comme ça ne se transporte pas, vous ne pouvez pas concentrer l'industrie comme on le fera au XIXe siècle. Le grand charme du charbon, c'est que vous pouvez le mettre sur des rails et vous pouvez le transporter à l'autre bout de la planète. Ça ne pose pas de problème. Et vous rendez compte qu'en fait, la géographie des activités va complètement changer, la possibilité de les concentrer, etc., etc. Alors Bertrand Gille va expliquer de la même façon qu'à la fin du XIXe siècle, il y a une nouvelle rupture avec l'apparition d'une nouvelle série de technologies, notamment l'électricité, notamment les moteurs à combustion interne, ça c'est un des premiers diesels, et puis les télécommunications modernes. Et donc tout ça va changer la donne. En haut, c'est la principale centrale électrique de Berlin au tournant 19e-20e. C'est un terminal téléphonique, là aussi fin 19e, et puis un moteur diesel. Les grandes industries vont changer aussi de nature. Ça ne va plus être le textile, mais par exemple la chimie lourde. Ça va être des choses comme l'industrie automobile, des choses déjà plus proches de ce qu'on connaît. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une révolution technique? On peut le définir un peu après Mumford et Gilles. Quand le système global des techniques bascule, eh bien oui, on est face à une révolution technique. C'est ainsi que, du coup, on considère que quelque part entre 1750 et 1850, on est passé d'une économie faiblement carbonée à une économie, à une technologie centrée sur l'usage du charbon. On est passé d'une mécanisation faible à une mécanisation beaucoup plus forte, etc. Le système technique a basculé par rapport au système technique traditionnel. De la même façon, on considère que entre 1880 et 1920-1930, il s'est passé ce qu'on appelle souvent la seconde révolution industrielle, qui est celle de l'électricité, des moteurs, de l'automobile, etc. À bien des égards, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est encore, à l'exception du numérique sur lequel je reviendrai, un monde hérité de la seconde révolution industrielle. Le problème de l'automobile aujourd'hui, c'est comment sortir du monde de la seconde révolution industrielle. La première révolution industrielle était très fortement carbonée, mais était très transport en commun, si vous voulez. Le chemin de fer, c'était, et le paquebot, c'était les deux moyens de transport, etc. La deuxième révolution industrielle introduit le véhicule individuel. Ça va jusqu'à présent? Bien. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est simple, mais en fait, c'est très compliqué en pratique, parce que ça va à quelle vitesse? À partir de quand on peut dire que le système bascule? Prenez la première révolution industrielle. Pendant longtemps, on a regardé, on s'est dit, la première révolution industrielle, ça arrive fin 18e en Angleterre. Et ensuite, ça se répand en France, ailleurs, etc. On regardait des innovations comme la machine de Watt. Ça, c'est un dessin de l'époque d'une machine de Watt. Où on regardait les premières usines textiles à Manchester et ailleurs. On se disait, voilà, c'est bon. Manque de peau, aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible au fait que la société anglaise s'est transformée beaucoup plus lentement et qu'en fait, à bien des égards, les gens ont vécu de façon traditionnelle jusque vers 1850. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à décaler la révolution industrielle, à dire la première révolution industrielle, c'est vraiment en 1850 qu'elle s'opère. Ça vous explique, est-ce qu'il y a des dames et des demoiselles, enfin des demoiselles, parce que les mecs, ils sont irrémédiablement perdus, qui lisent Jane Austen? Pride and Prejudice, c'est super, hein, moi je l'ai lu 20 fois, j'adore. Bon, je parle pas aux autres. Bon, ben, le monde de Jane Austen, il est contemporain de la machine de Watt. Et quand vous lisez Jane Austen, ça n'existe pas, etc. Donc vous vous rendez compte que c'est compliqué, ces trucs. Et ça, c'est l'univers de Jane Austen, si vous voulez. Il y a un roman victorien, alors là, pour les dames qui aiment, et dont moi, hein, dont je me mets dans les dames là-dessus, qui aiment les romans avec happy end, Boys Meet Girls, si vous avez un peu d'anglais, lisez North and South d'Elizabeth Gaskell, qui est la confrontation entre une jeune femme qui vient du sud de l'Angleterre, donc qui est encore traditionnelle, gentry, etc., avec un patron d'industrie des Midlands. Et c'est un roman super, et en plus ça se termine bien. Et c'est un roman qui est écrit au moment où l'Angleterre a basculé, vers 1850-1860. Dans les effets de bascule, il y aura aussi le truc qui va peut-être être aussi important que l'industrie, peut-être même plus psychologiquement, c'est les transports. Le chemin de fer, ça se développe à partir de 1820 à peu près, et vers 1850, c'est comme si on vivait dans un monde différent. Je pense qu'on n'a pas connu avec l'avion une révolution du même ordre que le chemin de fer. Pour vous donner une idée, c'est les temps de transport. La France, en termes de temps de transport, entre le début du 19e et la fin du 19e, en termes de temps de transport, c'est comme si la France était devenue la banlieue de Paris. En fait, aucune génération, même les générations de la découverte des jets dans les années 50-60, n'a connu un tel raccourcissement des distances. Un autre exemple, ça c'est les courbes isochrones aux États-Unis de temps de transport. Et vous voyez qu'en fait, les États-Unis, comme par hasard, la fermeture de la frontière, eh ben, elle est très liée au fait que il faut encore quand même en 1857 5 semaines pour arriver ici dans certains coins des Rocheuses, mais le chemin de fer va faire imploser ça et unifier le pays. Alors, avec les questions de système technique, on voit qu'il y a des tas de conséquences, que c'est lié au social. La première révolution industrielle, on se rend compte bien sûr que c'est lié à la société, à l'expérience du vécu des gens, etc. Encore une fois, avec par exemple le chemin de fer, va naître l'idée de rapidité moderne, l'idée d'accélération du temps, tout ça c'est des choses qui datent de la première révolution industrielle. Alors du coup, on a parfois tendance à aller encore plus loin, à se dire finalement, on pourrait les systèmes techniques, peut-être que ça peut éclairer certains aspects politiques très généraux. Par exemple, vous avez des gens qui ont développé l'argument suivant, les sociétés hydrauliques sont en général des sociétés très bureaucratiques. Pourquoi ? Parce que l'eau, ça se coordonne administrativement, et c'est vrai que historiquement, les sociétés du Moyen-Orient ont très tôt développé des bureaucraties, et l'une des raisons pour lesquelles elles ont développé l'écriture, c'est qu'elles avaient à gérer l'irrigation. Du coup, un Allemand qui s'appelle Wittfogel avait développé l'idée de despotisme hydraulique en disant finalement il y a des liens entre le développement relativement tôt des sociétés orientales et une espèce de pratique autoritaire top-down liée aux nécessités de coordonner l'hydraulique. C'est pas complètement faux. C'est vrai que dès que vous avez de l'hydraulique, vous avez des besoins de coordination administrative. Par exemple, la plus grande entreprise d'hydraulique jamais entreprise aux États-Unis, le New Deal, ça correspond à un renforcement de l'administration fédérale. De la même façon, le barrage des Trois Gorges aurait été impossible sans l'input du gouvernement chinois. Mais c'est là où il faut être un peu plus nuancé, et je vous complique la vie, mais il faut regarder dans les détails parce que ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, une des sociétés les plus hydrauliques au XVIIe siècle, XVIIIe siècle en Europe, c'est la Hollande, et c'est aussi une des premières sociétés capitalistes modernes. Et ce n'est pas du tout une société despotique, etc. Donc en fait, il n'y a pas forcément des liens absolument déterministes. Il y a des liens, mais il faut éviter d'exagérer. Un autre exemple, par exemple, c'est l'irrigation aux États-Unis. L'irrigation aux États-Unis s'est faite dans un contexte strictement libéral. D'ailleurs, du coup, on va voir les limites bientôt, parce que la nappe phréatique s'épuise dans l'Ouest. Mais on voit que les systèmes hydrauliques ne conduisent pas forcément toujours aux mêmes choses. Alors, il faut se méfier, mais on reste tenté par ces choses-là. Parmi les best-sellers actuels de la littérature sur l'économie carbonée, vous avez ce bouquin « Carbon Democracy » de Timothy Mitchell, qui est plutôt intéressant. Un des arguments de Mitchell, c'est dire « le charbon, Bien sûr, ça a posé plein de problèmes et tout, mais le charbon, il a donné sa chance aux mouvements sociaux. Pourquoi? Parce que les mineurs pouvaient paralyser les mines. Parce que c'était une industrie très intensive en main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, les acquis sociaux dans la plupart des sociétés développées, elles sont liées aux grandes grèves, notamment dans les mines de charbon. Et il dit, le pétrole, c'est une économie complètement différente, il n'y a pratiquement pas d'employés, et du coup, ce n'est pas gouverné de la même façon. Alors bon, il y a des choses plus subtiles qu'il dit, mais ce n'est pas inintéressant comme type d'argument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les révolutions techniques, ça présente une dimension sociale et politique évidente. Par exemple, le prolétariat, tel que va le qualifier Marx, la classe ouvrière, si on veut, toutes ces choses-là, ben, ça se forme avec la première révolution industrielle. Il y avait des ouvriers avant, mais ils n'avaient pas le sentiment d'être dans une aventure collective qui est celle de l'usine, etc. Du coup, l'idée de lutte des classes que va développer le marxisme, c'est quelque chose qui est contemporain de la première révolution industrielle. Il y a des choses aussi qu'on a découvertes ou qu'on a redécouvertes, dont les contemporains étaient conscients, mais qu'on avait un peu eu tendance à négliger. Par exemple, le fait que la révolution industrielle n'a pas seulement créé le prolétariat, elle a créé la femme moderne. Alors, je m'explique. Dans la plupart des sociétés européennes, les femmes avaient un statut de mineur pendant très longtemps. Non, le droit de vote, c'était même pas, il n'en était même pas question, mais en fait, elles ne pouvaient pas signer d'actes, elles n'étaient pas indépendantes financièrement, etc. L'usine, ça a représenté pour beaucoup de femmes la possibilité de vivre seules et de gagner un salaire en leur nom. C'est un ingénieur français qui visite une ville qui s'appelle Lowell, dans le Massachusetts, et à Lowell, il est très étonné par la quantité de jeunes femmes seules qui travaillent dans les usines. Et en fait, jeunes femmes qui d'ailleurs se sont organisées, qui publient même un journal qui s'appelle les Lowell Offering. Et il est tout à fait stupéfait par ça, que des femmes puissent vivre seules. Aujourd'hui, ça nous stupéfait moins, et on se rend compte que la révolution industrielle, elle a changé beaucoup de choses, et elle a permis notamment, je dirais, l'émancipation moderne des femmes. Eh ben, elle est liée aussi au fait qu'elles ont pu s'émanciper économiquement, même en étant hyper exploitées dans les usines. Elles étaient moins payées que les hommes, mais elles étaient payées en leur nom, et pas au nom de leur mari, de leur père, de leur frère, etc. Donc, vous voyez, ces choses-là ont un impact. Alors, dernier point, la révolution industrielle, ça nous a fait rentrer aussi dans un autre truc dont on est en train de commencer à mesurer les limites, qui est l'idée de progrès. Jusqu'à la première révolution industrielle, l'idée qu'il y avait un progrès, qu'on allait quelque part, que les choses n'allaient pas se répéter, n'était pas du tout une idée évidente. Comme on était dans des économies essentiellement agricoles, avec de l'énergie hydraulique, etc., on se disait les choses se répètent. Les choses se répètent, elles sont cycliques, jusqu'à ce que la fin du monde, on siffle la fin de la partie, mais enfin, tout s'est répété. Avec la révolution industrielle, les machines qui consomment du charbon, le charbon qu'on arrache à la terre, on se crée l'idée d'irréversibilité. Et est-ce que c'est pour le meilleur? Ce qui est assez intéressant d'ailleurs au 19e siècle, c'est que tout le monde tient en général un discours, ça va devenir merveilleux. Puis vous avez quand même des gens qui commencent à penser qu'en fait, on va vers la cata. Et les discours actuels, en fait, sur la fin du monde, dont vous êtes tous abreuvés, bah, il faut vous dire qu'en fait, ils ont été possibles. Parce qu'on est rentré à partir d'un certain moment dans cette idéologie du progrès. D'une certaine façon, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut sortir de ça? Ou est-ce qu'on peut conserver certaines idées du progrès et pas d'autres, etc., etc. Comment retrouver des rythmes d'exploitation de la nature qui soient cycliques et pas linéaires? Toutes ces questions-là qui sont finalement des questions, finalement, comment on peut rentrer dans une logique, entre guillemets, post-industrielle. En d'où question? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que entre l'ubérisation, ça c'est une carte des objets connectés d'il y a quelques années, etc., est-ce qu'on est en train de basculer dans un nouveau système technique? Des gens comme Rifkin, que j'ai mentionné, sont persuadés que la robotisation, c'est l'équivalent de la machine à vapeur du 19e, on va basculer dans un autre monde. En même temps, alors vous rajoutez à ça le défi climatique, vous rajoutez à ça le changement de sensibilité. l'agriculture urbaine, la permaculture, etc., etc., et vous dites qu'il y a quelque chose. En tout cas, le rapport aux techniques, il est en train de changer. Une des raisons aussi pour lesquelles j'avais décidé de faire ce cours à l'époque, c'était aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, il est particulièrement nécessaire de réfléchir à la relation technique-société parce qu'elle est en train de muter jour après jour. C'est évident qu'on n'a plus les mêmes réactions face aux techniques qu'il y a une génération. Donc c'est en train de changer très très vite. Donc est-ce qu'on va vers une nouvelle révolution technique ? Question. Alors, vous avez des gens qui pensent que oui, et puis vous avez des grands sceptiques. C'est Gordon, c'est un livre fascinant, je ne vous conseille pas de le lire. However, parce qu'il doit faire 600-800 pages, mais il est assez passionnant, parce que le grand argument de Gordon, c'est de dire, en fait, les ordinateurs, c'est pas la base de votre vie. En fait, si on vous prive de vos ordinateurs, de vos téléphones, moi, je vais être très malheureux aussi, parce que comment je vais faire en réunion pour pas m'emmerder, comment je vais faire en cours, enfin, bon, le truc classique, quoi. Vous pouvez pas aller sur Facebook pendant que je parle, qu'est-ce qui vous reste? Mais en même temps, je dirais, le gros des technologies sur lesquelles vous vivez, par exemple, la boîte de conserve, l'eau filtrée, etc., l'automobile, bah, c'est des technologies de la seconde révolution industrielle. Le numérique n'a pas joué à ce point. Dans un autre genre, il y a le gourou, un des gourous de la Silicon Valley, un peu sulfureux parce qu'il a voté Trump, Peter Thiel, qui explique « Quand j'étais petit, on m'avait promis des voitures volantes. Tout ce que j'ai eu, c'est un smartphone. » Et c'est vrai que le monde a peut-être moins changé que ce qu'on imagine. Donc, révolution technique ou pas, c'est une question. Une autre question derrière ça, c'est quoi le moteur du changement technique ? Hein ? Je vais y revenir, l'innovation, mais le problème, c'est qu'à cette échelle-là, il y a des choses qu'on perçoit et d'autres qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire, par exemple, on sait aujourd'hui assez bien que une des raisons de la révolution industrielle, quand même, ça a été l'épuisement des ressources en bois en Europe. Il n'y avait plus assez de combustible, donc il fallait inventer quelque chose, etc. Une des raisons derrière aujourd'hui, probablement le fait, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on va plutôt vers une révolution technique de type première révolution industrielle, c'est que la crise climatique est telle que, et les crises en matière d'approvisionnement de certaines ressources clés, qu'il va falloir inventer autre chose. Il y a des blocages, si vous voulez. Mais ensuite, comment étudier l'innovation de façon un peu plus grenue ? Une fois que vous avez dit « il y a la machine de Watt », ça ne vous explique pas comment Watt il a fait. Donc, en fait, ce que je voudrais faire maintenant, c'est prendre un système beaucoup plus petit, le container, et le gars qui a inventé le container, et vous montrer comment, en fait, on peut faire système à une échelle plus petite, mais on va le voir à une échelle qui va mettre en jeu quand même la planète tout entière. Et donc, c'est là ce que je voudrais faire maintenant, à présent, pour essayer de saisir, finalement, des problèmes qu'on ne saisit pas complètement à cette échelle macro. Ça va ? Un peu, finalement, comme si, au lieu de regarder le numérique dans son ensemble, là, on commence à regarder plus précisément, les gars, ce que fabriquent Steve Jobs et etc., dans le garage d'Apple, mais à ce moment-là, il faut aller regarder, en fait, du côté du Xerox PARC de Palo Alto, où, en fait, toutes les innovations décisives de la micro-informatique post-Apple sont nées. Et donc, comment ça se passe ? Alors, finalement, il faut donc changer d'échelle pour voir, finalement, apparaître des acteurs qui ne sont pas la société dans son ensemble, la marche des techniques, les ressources naturelles, mais des choses plus fines. Alors, le container. Container, c'est un truc assez rigolo, parce que c'est pas, a priori, un truc intellectuellement, vous dites, c'est pas quand même de la science stratosphérique. Bon, c'est jamais qu'une boîte en métal. Et puis, vous dites, bon, franchement, le container, OK, mais enfin, c'est pas aussi excitant que le smartphone, etc. Il n'empêche que le container a eu probablement plus d'incidence sur la marche de la planète que le smartphone. Le container, jusqu'à présent, le smartphone est en train de commencer à révéler tous ses effets, mais le container, il n'y aurait pas eu de globalisation sans le container. Le container, ça a permis de mondialiser vos téléphones de Chine, etc. Ils n'arrivent pas par avion, ils arrivent par container. Les fringues, tout arrive par container. Du coup, cette innovation qui peut paraître finalement pas très sexy, elle a eu des conséquences absolument gigantesques. Ça a complètement réformé le trafic maritime. C'est qu'aujourd'hui, le trafic maritime, vous avez très peu, les bateaux naviguent quasiment en H20, naviguent H24, mais plutôt J365, et on s'arrête très peu dans les ports, et avec des points d'accroche de moins en moins nombreux, ça a complètement transformé la structure du transport maritime, au point d'ailleurs de mettre en cause l'existence de centaines de ports de par le monde. Alors, ce qui est bien avec le container, c'est qu'on sait qu'il a inventé. C'était une idée qui était dans l'air, clairement, mais ça a été inventé par ce monsieur avec la cravate là, qui n'avait rien de particulièrement, c'est pas Einstein, c'est un monsieur qui s'appelle Malcolm MacLean, qui était né en 1913 et mort en 2001, qui n'était pas un gars super sophisticado intellectuellement, c'était un mec, il avait été GI pendant la guerre, il avait avec sa sœur et son frère sur la photo une compagnie de camions en Caroline du Nord, et quand même il avait profité de ce qu'on appelle le GI Bill, qui était de financer l'éducation supérieure des gens qui avaient fait la guerre, des vétérans de la guerre, donc il avait fait des études supérieures au sortir de la guerre. Et puis, il commence à réfléchir et il se dit finalement, la croissance du transport routier est en train de mettre en crise tout le système de transport à cause de sa mauvaise articulation avec le transport maritime. C'est-à-dire que très clairement, le transport routier, ça débouche sur du transport maritime et ça se passe mal à l'interface. La rupture de charge est un problème colossal, c'est-à-dire qu'il faut décharger les camions, les mettre dans des docks, les recharger dans les bateaux. C'est un phénomène extrêmement lent et ça pose problème. Grosso modo, donc les techniques portuaires, en fait, elles sont restées ce qu'elles étaient au XIXe siècle. Elles se sont réformées au XIXe siècle avec l'invention du dock et elles sont restées à l'identique jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est pas qu'un problème technique, c'est un problème. Alors le dock avec tous les bateaux qui stationnent à quai pendant des heures et des heures pour qu'on les charge, tout ça est très lent, etc. Et avec des professions, les syndicats de dockers sont extrêmement puissants partout dans le monde et quand ils font grève, ça fait mal, etc., etc. Un des problèmes de MacLean, ça va être en fait d'imposer son truc contre les dockers et ça va pas être du gâteau. Alors MacLean, il a fait la guerre, il a réalisé un truc, c'est que pendant la guerre, on a transporté des tas de trucs à bord des bateaux, y compris des camions, des tanks, etc. Donc peut-être qu'il faut totalement repenser, plutôt que de transporter des boîtes, des petites boîtes, etc., peut-être qu'il faut passer à une autre échelle. Alors peut-être pas des camions, mais en tout cas, bon, ça prouve qu'on peut faire autre chose. Alors, ça se heurte quand même, ce truc-là, à ce qu'on appelle le phénomène d'irréversibilité ou encore de dépendance au sentier, path dependency, c'est-à-dire très grosso modo, quand vous avez toujours fait comme d'une certaine façon, c'est très difficile de briser les habitudes, ne serait-ce que parce que vous avez investi comme un fou dans certaines technologies et pas dans d'autres, etc. Vous avez des gens qui ont investi comme des dingues dans les docks, etc., dans les grues, etc., donc, pour faire autre chose, il faudrait jeter tout ça à la poubelle. C'est compliqué. Un bon exemple, c'est le clavier. Vous n'avez jamais demandé pourquoi on a des claviers, par exemple, pour les langues asiatiques. Ben, la seule raison, c'est que le clavier s'est imposé parce qu'il était là. Mais en fait, c'est probablement, si c'était les Japonais ou les Chinois qui avaient développé la machine à écrire plus vite que nous, peut-être que ça serait, ils auraient inventé autre chose. C'est pas un truc, quand même. Et bon, le l'AZERTY, le QWERTY, etc., c'est pas des claviers les plus rationnels, forcément, mais c'est de la dépendance au sentier tout à fait typique. Alors, ça explique pourquoi des tas de tentatives qui avaient, dès les années 30, ont tout échoué. Par exemple, à Marseille, on avait testé ces espèces de mini-containers dans les années 30. On avait fait une expo de mini-containers. Ça n'avait pas du tout marché, parce qu'évidemment, les dockers avaient dit « qu'est-ce que c'est que ce bidule ?»« Pas question », etc., etc. Finalement, on a toujours fait pareil, on a investi, etc., ce qu'on appelle souvent les investissements de forme. Ce qui veut dire que très grosso modo, le système, encore une fois, vous avez des gens qui ont investi dans tel truc, et si jamais on leur casse la baraque, vous savez, comme Uber et les taxis, si vous avez investi dans votre place de plaque de taxi, vous n'êtes pas un fan de Uber, etc., etc. Du coup, ça veut dire une chose, c'est que pour innover, il faut tout casser. Et c'est ça aussi qu'a la préscience de comprendre MacLean. C'est qu'il ne s'agit pas... L'erreur des gars qui faisaient des petites boîtes de conserve dans les années 30 à Marseille, c'était de croire qu'on pouvait garder le système et juste en rajouter un truc. Des fois, ça marche, mais pour le cas du container, en fait, il faut tout casser. Il va falloir casser tout système de transport maritime classique et le recomposer autour d'une figure nouvelle qui est celle du container. Donc, en fait, il faut que ça fasse système. Et ça, c'est probablement la différence entre l'invention isolée. L'invention pouvait inventer un container comme une boîte. Vous avez l'idée, tiens, ça serait super si on transportait des boîtes dans les bateaux. Ça ne fait pas une innovation, parce que ça n'engraine pas sur d'autres choses qui font système et qui s'imposent progressivement. Je voulais, par exemple, pour donner un autre exemple d'innovation, les premières ampoules électriques, c'est des ampoules à incandescence. C'est des ampoules, pardon, à décharge à électrode. Donc, grosso modo, vous avez un arc entre deux charbons. Ça s'use extrêmement vite, etc. Un des trucs que comprend Edison, c'est s'il veut poser la lampe à incandescence, il faut revoir tout le système électrique. Et c'est en fait, Edison, ce n'est pas un gars qui invente uniquement le bulbe moderne, la lampe à incandescence, c'est le gars qui réinvente toute l'électricité, tout l'éclairage, etc. Donc, c'est des systèmes, il faut faire système à une échelle plus petite. D'accord ? Donc, on va voir comment on va faire MacLean, finalement. Alors, une autre chose importante aussi, c'est que l'innovation, souvent, ce qui va, à partir d'un certain moment, la nourrir, c'est souvent ces espèces d'externalités de réseau. C'est très grosso modo, c'est un coût classique. La valeur de votre abonnement au téléphone est directement proportionnelle, en fait, au nombre d'abonnés au téléphone. Si vous pouvez appeler qu'une personne, c'est pas très intéressant. J'ai connu ça, vous voyez, je suis suffisamment vieux comme Mathusalem pour avoir connu les premiers pas du email en France. Je me souviens, à l'école des ponts, j'ai eu un email, vous n'étiez pas né. Je me souviens, on nous a donné un email en 93. Et je me souviens, la première année, d'abord, il m'a fallu 6 mois parce qu'on nous dit, on vous a créé une adresse email. Je dis, bon, OK, j'avais pas de modem, rien, etc. Donc, j'achète finalement un modem parce que ça avait l'air fun. Je me connecte. Alors, s'il fallait à l'époque aller voir l'informaticien, ça durait 2 heures, qui tapait des 1 et des 0, etc. C'était assez long. Puis là, le problème, c'est qu'il n'y avait personne à qui écrire. Du coup, désespérément, je cherchais, et où il y a quelqu'un, etc. Alors, ce qui m'a fait rire, un jour, j'ai lu un gars bien avant moi, qui était un des pionniers de l'ARPANET, dans les années 70, les premiers gars qui ont utilisé le email. Et il dit exactement la même chose. Au début, on avait cette capacité d'envoyer des messages. Le seul problème, c'est à qui ? Et c'était compliqué. Bon, donc externalité de réseau, grosso modo, la valeur du système va dépendre du fait qu'il s'accroît, etc. Donc il va falloir que ça se diffuse. Donc l'innovation, c'est ce qui va créer la valeur, finalement, plus que l'invention. L'invention a finalement une faible valeur. C'est l'innovation et sa diffusion hégémonique qui crée la valeur. MacLean, next stage, ça va consister à réfléchir au fait que, il faut repenser le transport maritime. Peut-être que le transport maritime, traditionnellement, c'était de faire naviguer des bateaux. C'était un peu, on joue, vous savez, comme dans les jeux où on a des petits bateaux sur l'océan, etc. Mais, en fait, c'était pas centré complètement sur le fret. Donc, en fait, il va falloir redéfinir le transport maritime. Et il va falloir finalement définir des tas d'éléments qui vont depuis les éléments les plus matériels, qu'est-ce que c'est qu'un container, jusqu'à des éléments de normalisation, de publicité, etc. Alors la première innovation, évidemment, c'est la remorque container. MacLean, qui est pas con, qui a une compagnie de camions, comprend que c'est pas forcément une super idée d'embarquer le camion jusqu'en Chine, ou etc., que par contre la remorque, ça, c'est pas idiot, parce qu'en plus, le camion, il arrive, il largue sa remorque, et il en prend une autre, etc. Donc, vous voyez, ça a l'air idiot, mais c'est pas du tout idiot. Alors ensuite, Dieu est dans les détails, il faut dessiner la remorque correctement, les modes d'ancrage, je vais revenir, etc., etc., les modes d'attache, etc. Deuxième innovation, du coup, faut redéfinir complètement ce que c'est qu'un bateau. Un bateau, c'était un truc dans lequel on mettait du vrac ou du pas du vrac, etc. Eh ben, un bateau, ça va devenir un truc dans lequel on empile des containers. Alors, MacLean, il va faire un truc, c'est qu'en fait, il va acheter deux bateaux, il va se lancer, il va profiter d'ailleurs d'un, ce qu'on appelle le loop, legal loop, c'est-à-dire une espèce de vide juridique, et il va pouvoir acheter une compagnie, créer une compagnie de bateaux. Il va acheter deux bateaux, il va les transformer pour montrer qu'en fait, on peut emmener des containers. Et ça, c'est son premier bateau de containers à l'époque. Et il fait la démonstration de ça en 1956 à Newark. Ça va être assez compliqué, encore une fois, parce que il y avait une loi à l'époque, les lois antitrust, il était difficile, il y arrive plus ou moins en trichant, mais il va falloir qu'il bataille. Il était, en théorie, interdit d'avoir à la fois une compagnie de camions et une compagnie de bateaux. Donc, en fait, il va renverser ce truc-là. Donc, vous voyez, des problèmes légaux aussi, etc. Alors, évidemment, il y a des gars qui comprennent immédiatement ce qui se passe, c'est les dockers. Et on interviewe le chef des dockers de Newark après le lancement de ce truc. On lui demande « qu'est-ce que vous en pensez ?» Grosso modo, le gars dit « grosso modo, je hais ce truc ». Et en fait, MacLean va se lancer dans une partie de bras de fer avec les dockers parce que bah, les dockers, ils sentent très bien qu'ils y perdent totalement. Au lieu d'heures de travail, en termes de quantité de travail, etc., ils vont dramatiquement perdre du pouvoir, finalement, sur les ports. Donc, du coup, les conditions de travail vont complètement changer. L'innovation, ça oblige souvent à complètement repenser le travail. Et ça se fait pas en une fois. Bon, vous avez suivi, pour revenir à Uber, les démêlés, est-ce que, finalement, les gars qui conduisent pour une plateforme, c'est des employés ou pas? C'est typique, si vous voulez. Et Uber, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Et les gars des plateformes, c'est de dire non, c'est pas du salariat traditionnel, c'est autre chose. C'est de l'abonnement, etc. Mais vous voyez, la nuance est quand même complexe. Alors ensuite, il y a toutes les petites conneries, mais qui ont l'air de petites conneries, c'est comment ça se déplace un container, comment on dessine les accroches dans les angles, comment ça s'empile, parce qu'il faut éviter que le container glisse, etc. Enfin, tous ces petits trucs qui font que Dieu est dans les détails, un peu comme ma machine à vapeur avec les tolérances du cylindre, ça ne suffit pas d'avoir l'idée de la boîte, qu'on va empiler, génial, il faut mettre au point les détails. Et puis comment vous empilez ça dans les camions, dans les bateaux, pour éviter les déséquilibres. Enfin, ça pose plein de problèmes qu'il faut résoudre, il faut redessiner les grues, etc., etc. Alors, dernier point, les technologies type comptabilité, mais aussi publicité, etc., et aussi avec à la clé un travail de normalisation. Et ça va m'amener au travail de normalisation. On va créer un standard, le TEU, 20 Foot Equivalent Unit, qui est en fait le standard. Les containers sont des multiples de cette unité de base. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu l'unité de base de la compta maritime. Et vous vous rendez compte qu'en fait, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du truc, il faut repenser. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un camion? Il faut repenser qu'est-ce que c'est qu'un bateau. Il faut repenser qu'est-ce que c'est que faire du fret. Il faut repenser les standards maritimes, la compta, etc., etc. Se débarrasser quand même dans une grande partie du monde traditionnel des dockers, etc., etc. Alors, les innovations de MacLean, elles forment système, clairement. C'est-à-dire que ces trucs-là vont s'embrayer les uns dans les autres et vont devenir irréversibles. C'est-à-dire qu'on va pas. Maintenant, on est dans une irréversibilité du container, et à la limite, si vous voulez décontainériser, ça devient compliqué. D'ailleurs, MacLean a l'idée très très nette que de tout ça, il va même aller jusqu'à construire son propre port. Et pour ceux qui connaissent New York, du côté de Newark, vous avez un endroit qui s'appelle Port Elizabeth, c'est en fait MacLean qui va construire ce truc comme le premier terminal de container. Alors, ça va avoir des conséquences gigantesques. Je parlais de la mondialisation. La mondialisation n'aurait pas été possible sans la rationalisation du transport maritime. Là aussi, l'intérêt des systèmes techniques, ça consiste aussi des fois à se défaire d'idées préconçues. La mondialisation, c'est pas la fille de l'aviation. C'est la fille du transport maritime. Et ça, c'est quand même la vérité de base. On vit en fait dans un monde de bateaux peut-être au moins autant, si ce n'est plus, que dans un monde d'avions. C'est par bateau que les choses arrivent et partent. D'où d'ailleurs, si vous voulez, en termes de géographie aussi, les grands ports aujourd'hui, avec aussi une logique du winner takes all, qui est encore plus forte qu'auparavant. Vous savez qu'aujourd'hui, les vins de Bordeaux, ils partent pas de Bordeaux, ils vont jusqu'à Rotterdam ou Anvers, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, en Europe, aujourd'hui, il y a un ou deux hubs. Ensuite, des ports qui vont survivre. Le Havre survivra toujours parce que au Havre, on peut larguer des trucs qui vont sur Paris. Ça aura toujours un sens parce que c'est finalement un port embouchure d'une très grande métropole. Mais à part ça, en Europe du Nord, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui vont concurrencer Rotterdam-Anvers. C'est une espèce de continuum, etc. En Asie, actuellement, il y a une bataille féroce entre Singapour, la Corée, Shanghai, enfin autour de Shanghai, etc., où ça va être où les hubs portuaires de l'Asie. Et là, la bataille, elle est encore plus féroce qu'ailleurs, avec d'ailleurs des investissements colossaux. La Malaisie, par exemple, est en train d'envisager de faire un canal qui traverse toute la Malaisie pour court-circuiter Singapour. Donc vous voyez des trucs assez compliqués qui se mettent en jeu. Alors, ça a des conséquences aussi terribles, c'est-à-dire que les ports vont quitter les villes. Les ports avaient déjà commencé à foutre le camp. La révolution industrielle, là aussi, les bateaux sont beaucoup plus importants que ce qu'on oublie souvent. Par exemple, au XIXe siècle, vous ne comprenez pas l'évolution des ports si vous ne comprenez pas, grosso modo, les bateaux doublent de taille tous les 25 ans. Il y a deux trucs au XIXe siècle. Pas très rassurant, les bateaux doublent de taille tous les 25 ans et la portée des armes à peu près pareil. Dans les années 1800, ça commence en 1850 avec l'introduction de l'artillerie rayée. Et en fait, jusqu'à la fin du 19e, les portées doublent à peu près chaque génération. Et les bateaux doublent aussi, enfin tout rentre dans cette espèce de spirale. On est en train de voir la même chose sur les containers. Une des conséquences, c'est que vous ne pouvez pas mettre du container dans le vieux port de Marseille. Donc, et même au port de la Joliette pour les Marseillais, etc., ça va pas. Donc il faut foutre le camp beaucoup plus loin de la ville. Et en fait, on voit émerger la typologie du terre-plein. C'est-à-dire le port, c'est plus un endroit pittoresque, c'est un parking à containers, point à la ligne. Et du point de vue urbain, si vous voulez, ça va redéfinir complètement les relations ville-port. Donc en fait, M. MacLean, qui avait aucune notion d'urbanisme, c'était pas son problème. Il va en fait créer un système qui a des effets sur les relations de Marseille et son port, sur Rotterdam et son port, etc. Vous vous rendez compte, finalement, ce truc-là est assez étonnant. C'est aussi un des trucs étonnants, il y a certaines technologies, Dieu sait pourquoi, pas toutes, qui ont des effets bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Il y a un autre cas d'école, c'est le barbelé. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi au barbelé. Le barbelé, c'est ce qui va permettre l'élevage industriel. Parce que très grosso modo, vous n'avez plus besoin de garder les vaches. Elles se font mal avec les fils barbelés. Et le barbelé, ce qui est génial, c'est qu'après les vaches, le poilu. C'est que ça va devenir l'instrument primordial de la guerre de tranchées. Parce que là aussi, ça déchiquette les chairs. Et en fait, vous avez une technologie assez conne. Hein, quand vous regardez un fil barbelé, vous vous dites pas c'est du Léonard de Vinci. Mais ça a des conséquences absolument gigantesques. Alors aujourd'hui, là aussi, une explosion des standards. On est maintenant, les bateaux sont aussi en train d'augmenter. Il y a une logique, là aussi, du gigantisme qui n'a pas cessé depuis MacLean. Alors, qu'est-ce qu'on voit à cette échelle? Et c'est ça qui est important finalement de bien comprendre. Ce n'est pas les mêmes systèmes techniques que Bertrand Gilles, etc. Qu'est-ce qu'on voit déjà à cette échelle? Eh bien, on voit, j'aurais pu vous faire finalement une description de la machine de Watt, mais je trouve que le container, c'est quand même un peu plus proche du monde dans lequel on vit. Mais on voit à cette échelle des hommes, des entreprises, des syndicats, la politique. On voit des acteurs. On voit d'ailleurs des acteurs, un sociologue des sciences assez célèbre, un Français qui s'appelle Bruno Latour, un de ses arguments est de dire les acteurs, il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a aussi des choses. On pourrait dire que d'une certaine façon, le container en tant que boîte, il a aussi des effets, parce qu'il réclame certaines choses et il y a d'autres choses qu'il n'aime pas, etc. Il réclame, par exemple, un terre-plein sur lequel on puisse le poser, etc. Donc, en fait, on voit des acteurs, humains et non humains, qui, ensemble, fabriquent des effets de système. Alors, on voit aussi ce qui est un peu déconcertant avec Gilles et Mumford. On était dans le truc rassurant dans lequel tout était méga, la société, les techniques dans leur ensemble, etc. Là, on voit un peu comme mon cas du barbelé, comment parfois des choses qui paraissent pas, encore une fois, de la science, de la rocket science, ont des effets planétaires tout à fait étonnants. Bon, dans un autre genre, bon, on pourrait dire que le gars qui a inventé le smartphone, c'est là aussi le smartphone. Moi, j'ai connu l'époque BlackBerry, où c'était encore un truc de distinction du cadre sup. Aujourd'hui, même dans les bidonvilles indiens, les gamins ont des BlackBerry, ont des smartphones, même s'ils se les louent les uns les autres, etc. Mais on se rend compte que c'est en train de transformer le champ social, alors que ce n'était pas a priori... Bon, pourquoi, par exemple, la tablette n'a pas transformé le champ social ? Donc il y a des trucs comme ça, avec des effets, finalement, comment des causes limitées produisent des effets considérables. Alors, on se rend compte finalement aussi que, et ça c'est une leçon intéressante pour les ingénieurs, vous pouvez difficilement décréter une révolution industrielle à vous tout seul. C'est plutôt quelque chose qui se décide au carrefour de tellement de facteurs, que ça se produit ou ça se produit pas, point à la ligne. Par contre, vous pouvez imaginer d'être le MacLean d'un système, etc. Ça donne à réfléchir sur les mécanismes de l'innovation et ce que c'est finalement qu'être un porteur d'innovation. Ce qui veut dire, encore une fois, être capable de penser au-delà de l'invention limitée, les effets systémiques, etc. Ce qui est vrai de beaucoup de domaines. Bon, Zuckerberg, on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a un moment, c'est un inventeur. Enfin, en fait, il pique l'invention à deux de ses petits camarades d'Harvard. Mais... Après, ce qui fait sa force, c'est que c'est un des premiers, finalement, à concevoir tout ce qui va, tout ce qui s'engraine avec l'idée de réseau social. Et c'est ça qui va faire de Facebook, sinon ça aurait été un autre réseau, etc. Et donc de fabriquer, finalement, une espèce de système. Et puis il continue. Alors probablement un jour, il va se casser la gueule, comme tout est mortel en ce bas monde, mais l'achat de WhatsApp, etc., participe de cette même logique implacable. Bien. Alors, du coup, comment parler des techniques ? Je crois que cette première séquence, c'est un peu pour vous dire, finalement, il y a un regard sur les techniques qui n'est ni le regard... Vous aurez remarqué, on a vraiment parlé des containers. Je n'ai pas parlé juste de la globalisation. Et puis, donc, mais je ne vous ai pas parlé en détail... du type d'acier, etc., etc. Je ne suis pas un ingénieur spécialiste des containers. Finalement, c'est peut-être ça aussi la culture technologique. La culture technologique, ça consiste bien sûr à avoir quand même une gamme de choses qu'on connaît importantes. Mais je crois que ce qu'on attend de vous à la sortie de cette école, c'est d'être capable un peu de raisonner sur la façon dont les techniques s'engrènent avec le social et peuvent des fois le transformer. Et vice-versa, comment le social peut transformer les techniques. Et c'est un peu ça qu'on attend de vous.